le grand débat de l'Anacofi sur Radio Patrimoine.
Radio Patrimoine qui a posé ses valises ici au Cercle Interallié pour le grand débat de l'Anacofi. C'est un rendez-vous bien évidemment habituel sur l'antenne et on est ravis de s'y retrouver. Deux invités pour ouvrir cette première table ronde ce soir. Céline Mingue, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous pour l'Anacofi IMO. Et Jean-Hervé Lorenzi, bonjour Jean-Hervé.
Bonjour.
Fondateur du Cercle des économistes, grand nom s'il en est de cette économie. Voilà. Aujourd'hui, en plein tourment politique, on va dire, et on ne va pas spéculer, où en est la France, j'ai envie de dire. On lit partout qu'on est à l'arrêt, qu'on est au bord du gouffre, que rien ne va plus, que c'est la panique. Qu'est-ce qu'il en pense, l'économiste ?
Alors, j'ai été très frappé de ce qu'a dit le directeur général délégué de l'AMF, c'était très nuancé, c'est-à-dire qu'on est dans une période où, à l'évidence, on concentre des difficultés comme celles qu'on peut mettre en avant, celles à la fois d'un problème de finances publiques qui est important, enfin c'est pas la première fois qu'on a des gros problèmes en France, mais plus compliqué, on est dans une période où notre croissance est à vocation à demeurer assez limitée. Pourquoi ? Parce que on a à la fois très peu de gains de productivité, c'est qu'on n'investit pas assez, et on n'a pas une population active, mais au sens propre du terme, population qui travaille, qui va augmenter plutôt légèrement l'inverse. Donc, on est dans une période où notre croissance sera plutôt faible. Ça, c'est la partie très court terme. Et on ne voit pas de manière évidente comment cette situation peut évoluer de manière positive. Alors, c'est pas la catastrophe, c'est pas la fin du monde, c'est des périodes un peu de cette nature. On a connu beaucoup, mais c'est une période qui n'est pas particulièrement, talentueuse. Et puis, plus profondément, et c'est ce que j'indiquais dans ma courte introduction, c'est que nous sommes confrontés à un phénomène, alors là, qui n'est pas français, mais qui est quand même incroyable, la convergence de trois transitions, une qui est la transition du climatique, qui est un problème de survie. Hier, je ressortais le chiffre d'1% de hausse de la température, ça entraîne une baisse du PIB mondial de 12%.
On dit bien 1%, on n'est pas en degré. D'habitude, on nous dit si on augmente de 3 degrés, on est en pourcent.
Non, j'ai dit une bêtise. 1 degré, moins 12%. Franchement, moins 12%.
Ça fait une sacrée facture.
C'est une facture géante, comme on a connu que dans des périodes de guerre. Donc ça, c'est le premier aspect, une période de transition numérique qui est à la fois très porteuse d'avenir, de progrès, mais à très court terme, les gens se sentent un peu, d'abord, inquiets, parce qu'ils ont le sentiment que beaucoup d'emplois vont être, en tout cas, transformés. Et puis, il faut investir beaucoup, et c'est le deuxième aspect. Et puis, le troisième aspect, c'est la transition démographique, qui est la plus importante, qui est la seule dont on sait exactement...
C'est le vieillissement de la population.
Si on reprend exactement les conditions des retraites d'aujourd'hui, de la deuxième loi, c'est-à-dire l'arrivée vers les 64 ans progressives et les 43 années annuités, en 2030, c'est-à-dire demain matin, tout ça va nous coûter, en retraite et en dépendance, 50 milliards par an. Alors, comme vous voyez, les difficultés qu'on a à trouver 3-4 millions, je me dis, il va bien falloir se bouger, trouver des solutions. Et c'est un défi que la France a en peu particulier parce que elle a moins de degrés de liberté en raison de sa dette présente, mais qui est mondiale. Comment est-ce qu'on va se sortir de ces besoins absolument géants de financement? Et pour juste terminer, l'idée c'est quand même que ça va être un mélange de public, de garanties publiques sur des investissements privés. On l'a redit aussi tout à l'heure, avec
il va falloir des taux motiver, de rentabilité. Flécher, encourager.
Et puis des taux de rentabilité qui seront globalement, vraisemblablement, inférieurs à ce que nous avons connu.
Céline Mingue, votre regard, alors effectivement, vous avez la casquette un peu IMO, mais vous êtes aussi au contact de CIF, de CGP, etc., enfin de professionnels du patrimoine. Du coup, l'analyse que vous faites, que vous entendez, dont vous parlez, elle ressemble à quoi, notre France d'aujourd'hui ? Vous êtes inquiète ? Vous préoccupée ? Alors, optimiste ?
Historiquement, il semblerait que quand les particuliers, les entreprises sont inquiets, on est d'autant plus utile. Donc, certains métiers de la gestion de patrimoine ont beaucoup souffert en 2024, hein, notamment le courtage en crédit, l'intermédiation immobilière, puisqu'il y avait une raréfaction de l'offre, donc forcément. Mais le conseil global et l'accompagnement, donc du métier dans son ensemble, il va servir d'autant plus que la situation est difficile. Par rapport à l'immobilier, ce qu'on peut voir, c'est que le marché du neuf souffre énormément. Ils essayent de tordre le bras au niveau des promoteurs immobiliers. Le législateur, hein, essaye de tordre le bras. Ça fait plusieurs mois que j'ai vraiment ce sentiment très fort pour les accompagner vers la rénovation. Et on a vu qu'il y avait un certain nombre d'innovations au niveau des constructeurs. Ils ont changé des méthodes de construction, ils ont évolué en termes de rapidité, ils sont en train de réfléchir sur la VEFA parce que c'est trop long. Donc sur de nouveaux modes d'acquisition.
Pour rappel, la VEFA, c'est achat sur plan.
Oui, voilà. Vente en état futur d'achèvement. Donc globalement, moi, ce qu'on voit et les messages qu'on ne cesse de réitérer auprès des différents ministères, et il me semble que l'ouvrage va devoir être refait encore et encore, c'est de redonner la confiance, parce qu'aujourd'hui, l'investisseur, il a un problème de rentabilité, il a un problème de confiance, peut-être subjective, par rapport au loyer impayé, parce que quand on regarde la masse des loyers impayés, c'est 2 à 3%. Donc objectivement, c'est pas très lourd, mais il préfère... un certain nombre d'entre eux ne pas louer.
Ouais, quitte à ne pas avoir de revenus, ils ne veulent pas avoir d'ennui. Hein.
C'est ça. Ouais. Donc travailler là-dessus, parce que même si c'est subjectif, c'est réel et il faut en tenir compte. On va avoir des soucis aussi par rapport à la rénovation énergétique. Je rappelle quand même que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, tous les logements G deviennent indécents. Donc indécents, c'est interdit de louer, y compris en cours de bail. Hein. Ouais. Donc il y a des vrais enjeux.
Justement, cette histoire de confiance, parce que, bon, on ne va pas spéculer sur le nom des futurs locataires des différents ministères, etc. On imagine qu'on renversera probablement quand même pas la table. Donc, il faut raisonner peut-être sur de grands concepts, Jean-Hervé. Et cette histoire de confiance que Céline évoque, elle est essentielle tout de même, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour l'investissement, que ce soit pour la rentabilité, que ce soit pour toutes les échelles de notre économie de marché, finalement, non ?
Céline a parfaitement raison. Je trouve que l'utilisation de mots confiance pour les affaires de logement et d'immobilier. Je rappelle juste que toutes les grandes crises, au départ, sont les crises de l'immobilier, toujours. C'est l'aspect négatif. Et toutes les reprises sont toujours des reprises de l'immobilier. Donc, je pense que on atteint cette année le chiffre le plus terrible depuis la Seconde Guerre mondiale de construction et de permis de construire. Donc, c'est à la fois terrible et positif, puisque positif, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, on peut faire mieux.
Oui, c'est sûr. Une fois qu'on a touché le fond de la piscine...
Voilà, il y a un effet piscine. Et donc, je pense que la confiance dans le pays... pourrait venir ou devrait venir plutôt de ce secteur. Pourquoi ? Parce que le logement, c'est quand même un aspect très important pour les gens, notamment pour les jeunes.
C'est un besoin primaire, quasiment.
C'est un besoin primaire. Alors, il y a des tas de choses. Tout à l'heure, vous avez indiqué que le taux d'impayé des loyers est très faible. Et en réalité, il n'y a qu'énormément de gens qui considèrent
qu'il est trop élevé, ouais.
Oui, et qui préfèrent mettre en location des logements qu'ils n'utilisent pas. Donc il y a toute une petite révolution à faire, une vraie fracture. Je suis convaincu d'une chose, c'est que les décisions à prendre dans les semaines qui viennent doivent intégrer des décisions symbolique et réel sur le logement, je suis absolument convaincu de ça. C'est le seul moyen de redonner un peu d'air dans les voiles. C'est le seul moyen. Parce qu'on va pas brutalement réindustrialiser le pays, on va pas régler la dette en deux coups de cuillère à peau. En revanche, le logement, même si les bâtiments et les appartements ne sont pas directement disponibles tout de suite, il y a quand même un moment incroyable. Je me souviens toujours des grands patrons de l'immobilier, d'un des très très grands promoteurs qui était dans son bureau, puis il ouvre sa fenêtre, faisait beau, et on va sur, il avait une terrasse. C'est vrai que les promoteurs immobiliers ne sont pas toujours des centres de SDF, hein, non. Et il me dit, tu vois, regarde, à Londres, c'est bourré de grues. À Paris, il n'y en a pas. Il n'y a pas de grues. Et c'était déjà, alors c'était il y a 3 ans, on sentait que cet univers était en train de pas fonctionner comme on peut le souhaiter. Et je trouve que, voilà, que c'est l'élément clé. Donc, je dis que si ce qui est important pour le Premier ministre, c'est très bien, mais lui, il va faire de la politique. Le ministre du Logement, c'est très déterminant. Il faut réagir très très vite. Il faut trouver un ministre du Logement qui connaisse le métier, ce qui n'a pas toujours été le cas des derniers des ministres du Logement. Et il faut essayer par tous les moyens de réenclencher avec cet effet piscine qui peut jouer.
Donner le petit coup de talon.
Voilà. Et objectivement, j'ai un souvenir aussi d'un homme qui a joué un rôle très important comme ministre de l'économie, et un jour il présentait son programme. C'était une primaire. Et il y avait beaucoup, beaucoup de propositions. Mais il n'y en avait pas une seule sur le logement. Et je lui ai dit, mon vieux, si tu veux qu'il y ait un peu de croissance, la croissance, il va falloir nous faire un peu de logement. Et quelques secondes après, sur une radio, pas aussi talentueuse que Radio Patrimoine, mais il a dit, ah, oui, oui, la chose la plus importante, c'est de pouvoir donner un coup de pouce au logement.
Oui, non, allez-y.
On a toujours le même adage, hein, quand le bâtiment va, tout va. Ouais. Et la chose qui est vraiment primordiale, c'est que l'immobilier, il est captif. On ne peut pas l'exporter, on ne peut pas l'emmener dans un pays.
On ne peut pas le délocaliser,
voilà.
Ouais, c'est ça.
Donc, il sera toujours créateur de richesses, il sera toujours créateur d'impôts. Le manque à gagner avec les fontes des logements 2023-2024, on l'établirait à peu près entre 20 et 25 milliards d'euros de manque à gagner de recettes, oui, pour l'État.
Ça, c'est des choses qui auraient dû rentrer si l'activité s'était maintenue.
Exactement.
Et qui ne sont pas rentrées au moment où on est en train d'en chercher à peu près.
Exactement.
Moins, en fait.
Exactement. Et donc, non seulement c'est essentiel pour l'économie, pour la fiscalité, et c'est essentiel pour notre population, puisque l'État ne peut pas fournir les logements. C'est les particuliers qui sont pourvoyeurs et qui pallient cette déficience. J'aurais envie de dire naturel. Enfin, ils peuvent pas. De toute façon, l'État ne peut pas tout fournir. Mais donc, on a besoin de ces acquéreurs, on a besoin de ces investisseurs. Il faut sortir de cette crise du logement qui est exceptionnelle parce qu'elle est polymorphe. Voilà, il faut vraiment redonner envie aux gens.
Immobilier ou pas, juste une mesure de Jean-Hervé Lorenzi pour le futur gouvernement, le truc qu'il faut pas rater.
Je pense qu'il faut revenir sur une trajectoire crédible des finances publiques, parce que les Français on a un défaut majeur. C'est quand même qu'on est le seul pays au monde qui n'arrête pas d'expliquer que ça va pas bien chez nous. Il y a cette célèbre formule, les Français sont dans un pays où ils pensent qu'ils sont en enfer alors qu'ils sont dans un paradis. Il y a du vrai quand même dans cette affaire. Donc je trouve qu'il faut absolument donner des signes crédibles. Je prends juste un exemple. Je suis un retraité, pas milliardaire, loin de là, mais avec une retraite tout à fait convenable. Je trouve qu'il est normal, dans l'effort que nous devons tous, auquel nous devons tous participer, qu'il y ait, au fond, ce qui avait été imaginé, un peu des indexations.
Quelques-uns contribuent.
Mais c'était stupide de le faire sur l'ensemble des retraités. Les toutes petites retraites, cette femme de 60 ans qui a 600 ou 700 euros, qui...
Oui, on ne peut pas lui prendre grand-chose.
Enfin, c'était stupide de vouloir faire ça. Donc, je reprendrai un peu de sous aux retraités. Ça m'a valu beaucoup d'ennuis, y compris.
Aux retraités les plus aisés, on a compris.
Oui, enfin, je veux dire, la majorité. Je rappelle juste, cher ami, que alors qu'il y a des tas de petites retraites, le revenu moyen revenu moyen des retraités est légèrement supérieur ou équivalent à celui des actifs, ouais. Ce qui paraît curieux, et que à plus de 75%, les retraités sont propriétaires de leur logement. Ouais. Donc tout ça remet les choses. Donc je travaillerai là-dessus, et puis le PTZ, tout ça, enfin mon fameux plan Marshall sur le logement.
Sur l'IMO, sur le logement, c'est quoi? C'est le statut du bailleur privé? C'est
Alors, parce qu'on
on en a tellement défait que vous allez me faire la liste de ce qu'il faut refaire. Mais
De toute évidence, il faut agir sur la fiscalité, mais il ne faut pas le faire à moitié. C'est-à-dire que le statut du bailleur privé, tel qu'on peut le lire, avec un espèce de nivellement par le bas, c'est-à-dire en alignant le statut du meublé sur le statut du nu, ce n'est pas efficace. Ça fera peut-être rentrer en facial tout de suite de l'argent dans les caisses de l'État parce qu'ils économiseront peut-être un peu, mais à terme, ça ne sera pas efficace et ça ne redonnera pas l'envie aux gens d'investir. Donc, redonner de la rentabilité, on est toute tranche marginale d'impôts confondues, on est au maximum, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le dernier rapport d'Anaï Glemmer, on est à de mémoire, 3,7% maximum de rentabilité. Pardon, mais qu'est-ce que vous voulez vous enquiquiner à investir dans du logement, à gérer les travaux, les copropriétés, votre locataire, pour un taux de 3,7% avant impôt?
Oui, brut, hein. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris ces quelques minutes ici au Cercle Interallié, au cœur de ce grand débat de l'Anacofi que couvre bien évidemment Radio Patrimoine. Jean-Hervé Lorenzi, bonne soirée.
Merci.
Et merci d'avoir pris ces quelques minutes. Céline Minc, bonne soirée.
Merci.
Et merci également de nous avoir répondu.
Le grand débat de l'Anacofi sur Radio Patrimoine.